Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé, en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter. L'instant M, c'est court, mais ça en dit long.
Vous êtes en direct, allez-y.
Raphaël Glucksmann est âgé de 38 ans. À Edgar Morin, 96 ans, il demande pourquoi cette gauche, en phase avec la société, perd-elle toujours? Pourquoi Rocard se fait balayer par Mitterrand? Pourquoi Mendès France échoue? Pourquoi Blum est terrassé par Mollet? Est-ce une malédiction, cette défaite constante de votre gauche? Là, il s'adresse à Morin, de notre gauche, il s'inclut dedans. Hier, le Parti Socialiste a vendu Solferino. Fiasco. Raphaël Glucksmann a repris son espoir, celui qu'il pensait propre à sa génération. Des grands récits politiques de quand il était petit, il ne reste plus rien. Seulement les turiféraires du déclin. Et cette question, comment les affronter? Comment se faire entendre? La bataille des idées a-t-elle d'elle-même périclité? Ou l'espace médiatique l'a-t-elle dénaturé? Les médias permettent-ils encore de penser, de créer et pas seulement d'aboyer?
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Ça, c'est du lourd. Hein. Vous avez 4 heures, Raphaël Glucksmann. Bonjour.
Bonjour.
Le magazine littéraire est né, vous étiez même pas né vous-même, en 1966. Il n'est plus, et de très loin, le journal retentissant qu'il fut. Claude Perdriel, ancien patron de l'Obs, qui n'est plus patron de l'Obs non plus, vous en donne les clés. Le numéro 1 est sorti lundi. Un petit mot d'abord d'actu des médias, puisqu'on cause expositions médiatiques, des livres, des idées. Pour vous raconter qu'Adèle Van Rett, productrice sur France Culture des Chemins de la Philosophie, va prendre la place de Jean-Pierre Elkabbach et animer l'émission hebdomadaire littéraire de la chaîne Public Sénat, qui ne s'appellera plus Bibliothèque Médicis, mais qui continuera de se tenir dans la bibliothèque du Palais du Luxembourg. Voilà, le nouveau magazine littéraire, c'est parti. Alors, un texte manifeste de Naja Vallaud-Belkacem, une analyse lexicale des éléments de langage de Laurent Wauquiez, un récit écoute judiciaire à l'appui de la spirale psychotique qui a entraîné toute la famille Mera, une fiction dans la peau d'un violeur ordinaire par Leïla Slimani, un récit à la première personne du travail d'investigation sur l'évasion fiscale par Denis Robert et un grand et gros dossier consacré aux utopies avec de multiples contributions d'écrivains et de chercheurs. Blaise Cendrars. Pourquoi Blaise Cendrars? Parce qu'il est mort avant la création du magazine littéraire. Je l'ai choisi parce que sa voix est belle, qu'il n'est ni question de courant, ni question d'héritage pour le magazine.
Non, mais vous savez, c'est un métier tellement ingrat. Et réellement, réellement, en toute sincérité, on a peu de satisfaction devant sa page à écrire. On a très peu de satisfaction et tout à fait, pour moi, tout au moins exceptionnel, me dire ça, mon petit Blaise, c'est pas mal torché, c'est même très bien. Vous vous satisfaites là, on se l'accorde bien, bien, bien rarement.
Raphaël Glucksmann, le magazine littéraire qui se présentait depuis son origine comme le magazine des livres et des écrivains. Il est passé où, l'écrivain qui parle de l'acte littéraire? Il est passé où, l'écrivain qui parle d'écriture?
Il est à la quête, en quête du réel. Il est dans une exploration de la société. Ce n'est pas le magazine qui parle des livres, c'est le magazine qui porte un regard littéraire sur le monde. Parce qu'il y a eu une forme de cloisonnement, de compartimentation des rôles. Les écrivains écrivent des livres, les philosophes philosophent, les sociologues sociologisent, les poètes poétisent. Et au fond, il n'y a plus de mise en commun de ces différents langages pour raconter la société. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire. Les critiques littéraires restent dans le magazine, mais finalement, ce qui nous intéresse dans la littérature, c'est ce qu'elle dit du monde. C'est sa capacité à raconter notre monde, à l'explorer et à aussi rendre visite à l'ailleurs, dans l'ailleurs. Notre capacité aujourd'hui à contempler un horizon différent de notre société actuelle, de imaginer un autre monde que celui dans lequel nous vivons, eh bien, est assez faible. Et ce que je pense profondément, c'est que la littérature nous permet d'imaginer cet autre monde.
Alors justement, regardez, Michel Houellebecq, invité du 20h de France 2. Écoutez la question que lui pose David Pujadas.
On dit souvent que vous êtes visionnaire dans chacun de vos romans. Vous avez parlé des difficultés de cette société occidentale à travers l'art, le monde du travail, la religion. Est-ce que vous avez un roman en chantier? Quelle sera votre prochaine vision, donc?
Oh, je vais arrêter avec un axe politique et je pense que les sentiments sont le plus important, en fait.
Quelle sera votre prochaine vision? Surréaliste, non? Journaux, plateau télé, matinale radio, c'est la place des écrivains dans le débat public qu'évidemment on peut interroger en ce moment. Et ce que vous faites, vous, avec le nouveau magazine littéraire, Kamel Daoud, Michel Houellebecq, Leïla Slimani, Virginie Despentes, dans les médias, on ne les fait plus parler de littérature. On leur demande de raconter le monde. Est-ce qu'il s'agit d'une catégorie d'écrivains, Raphaël Glucksmann, ou de tous les écrivains? Est-ce que réellement c'est un besoin d'aujourd'hui?
Quand vous dites littérature, c'est quoi la littérature? C'est-à-dire que la littérature, ça a toujours raconté le monde. Il n'y a pas d'un côté la littérature, de l'autre l'exploration du réel. Les grands livres qui façonnent notre imaginaire sont des plongées dans le réel. Quand Leïla Slimani se glisse dans la peau d'un violeur et qui commet un viol ordinaire cautionné par l'environnement social,
c'est
dans
la nouvelle que vous publiez.
Ouais, et bien elle explore le réel et elle fait de la littérature. Elle fait une littérature qui explore le réel, ce qui a toujours été le cas. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de contrôle d'identité, il n'y a pas d'esprit douanier à avoir. On fait de la littérature en parlant des questions de société, on fait de la littérature en explorant un fait divers, on fait de la littérature en explorant un fait politique. Et c'est ça que moi j'ai voulu revitaliser.
Il n'empêche pas de laisser parler les écrivains de leur écriture et de l'acte littéraire, ce que manifestement vous abandonnez pour vous intéresser à autre chose, mais pourquoi pas. Je vous cite un grand papier du Figaro du mois d'octobre, le titre: Sonia Mabrouk, Leïla Slimani, Lydia Guirous, Annette Bougrab, ces femmes contre les dérives de l'islam. Elles sont jeunes musulmanes françaises. Elles ont décidé d'écrire pour dénoncer les dérives de l'islam, plus qu'un phénomène éditorial, un engagement éditorial. Est-ce que toutes les écritures se valent, Raphaël Glucksmann? Est-ce que quand on met sur le même plan journaliste, de femmes politiques, un Brie Goncourt, est-ce que toutes les écritures se valent?
Voilà, la stupidité de cette liste, c'est justement qu'elle existe. C'est que les unes ne sont pas réductibles aux autres et elles ne font pas partie d'un mouvement. Ça, c'est une forme de catégorisation, d'essentialisation qui est une antithèse de la pensée. Non, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a dans le geste de l'écrivain quelque chose de très spécifique. Simplement, le domaine sur lequel ce geste s'applique, eh bien, peut être extrêmement varié. Et donc, le propre de tous les textes qu'on a essayé de rassembler, c'est qu'il raconte de manière littéraire quelque chose qui nous parle du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
sans perdre de vue la singularité de l'écrivain.
Bien sûr, voilà. Sans perdre de vue la singularité de l'écrivain. C'est tout l'enjeu. L'écrivain a un langage et il cultive son langage. Et ce langage, il nous permet de voir des choses que l'analyste politique ou le philosophe pur et dur ne permettent pas de voir parce qu'ils sont d'emblée dans une sorte de globalisation, rationalisation, essentialisation des problèmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le détail que va trouver Mark Weitzman quand il plonge dans l'affaire Mera. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Leïla Slimani va décrire l'attitude mentale de celui qui commet un viol sans même comprendre qu'il le commet. Et je pense que ça, c'est plus fort qu'un texte purement théorique sur les enjeux du harcèlement sexuel ou des violences faites aux femmes.
Alors, quoi dire, quoi penser, quoi écrire, quoi raconter, dans quel paysage médiatique, comment se faire entendre? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure et que vous vous posez forcément. Donc, ça nécessite de repenser, d'ailleurs, le paysage médiatique lui-même. Peut-on philosopher à la télévision? Michel Onfray se pose la question.
Il y a tout à la télévision. Je pensais que quelques-uns avaient résisté. Personne n'a résisté. Ils y sont tous allés. Sauf Gilles Deleuze, qui avait des problèmes respiratoires et qui ne pouvait pas y aller avec ses bouteilles d'oxygène. Et j'ai souvenir à apostrophe d'avoir vu Jean Kélévitch, Jean Guiton, Lévi-Strauss, Michel Serres, René Girard, Pierre Boutang, François Châtelet, Michel Foucault, BHL, Glucksmann, Renaud, Ferry ou François Georges ou quelques autres, Blandine Barré, Glucksmann, etc. Des individus qui philosophaient à la télévision. Alors évidemment, ça n'est pas l'université, c'est un autre endroit. On n'y philosophe pas pareillement, bien sûr, mais on y philosophe tout de même.
Alors, indépendamment des problèmes respiratoires de Gilles Deleuze, il y a cette interview donnée en 1977 où il explique que, selon lui, les nouveaux philosophes, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, votre père, introduisent en France ce qu'il appelle le marketing littéraire. Et il est passionnant à relire cet entretien parce qu'il dit qu'à ce moment-là, quelque chose bascule, que la valeur d'un livre, son poids dans le paysage intellectuel, s'évalue désormais à la kyrielle d'articles et d'interviews sur la sortie du livre, plus qu'au livre lui-même. Que finalement, le rapport de force s'est inversé entre les journalistes et les penseurs, que les penseurs se sont soumis au code médiatique et à leur format. Ça donne la pensée interview, la pensée entretien, la pensée minute. Et que tout a commencé à la télé avec le numéro de dressage que les intervieweurs ont fait subir aux intellectuels consentants. Vous avez retracé, vous, cette histoire-là de la prise de parole médiatique de l'intellectuel, du penseur, de l'écrivain, Raphaël Glucksmann ?
Il y a une dictature du temps médiatique et qui est un zapping de plus en plus rapide et donc un culte du buzz. Mais par contre, évidemment, on peut philosopher partout. Je veux dire, le père de la philosophie, Socrate, il se baladait dans l'agora, il interrogeait les esclaves, il n'avait pas le mépris d'un intellectuel dans sa tour d'ivoire pour le chant culturel populaire, et il menait ses entretiens sur la place publique sans se soucier des diplômes des uns ou des autres. Et donc il y a une vocation de la philosophie à entrer absolument partout. Parce que qu'est-ce que la philosophie ? C'est un phénomène d'interrogation sur la collectivité, sur le sens des principes, sur la vie. Et ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas d'un titre.
D'accord, non, mais ce que avec je veux vous, dire, mais c'est juste que quand Gilles Deleuze remet en question l'intervention médiatique d'un philosophe, l'idée n'est pas du tout traitée par le mépris, un média de masse ou un média populaire. La question, c'est de se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait faire à un philosophe à la télévision ou dans les médias en général.
Mais qu'est-ce que faisaient les philosophes des Lumières ? Ils ne faisaient que ça. La naissance de l'opinion publique, c'est ça. Il ne faut pas avoir ce culte de l'université ou de la tour d'ivoire. Par contre, ce qui est évident, c'est que le temps médiatique s'accélère de manière effrénée et donc pose un problème à la pensée. Et c'est pour ça que je crois, et j'en suis profondément convaincu, l'avenir de la presse, en particulier de la presse papier, eh bien, c'est justement de cultiver une autre temporalité, un autre temps, et donc de réhabiliter des papiers longs. En fait, il faut, quand on ouvre un magazine, quand on ouvre un journal, activer le mode avion de son iPhone, lâcher son compte Twitter et s'autoriser à s'immerger dans une pensée, dans un récit, dans un texte. Alors, c'est un pari, je ne sais pas si ça peut marcher, c'est un pari. Mais moi, je fais le pari d'une contre-temporalité qui est que si vous voulez avoir toutes les informations, eh bien, vous regardez Twitter, vous regardez votre télé, les chaînes d'infos continuent. Mais si vous voulez faire le tour d'une question, vous immerger, vous perdre même dans un texte, eh bien là, le papier est irremplaçable. Et c'est ça l'avenir de la presse papier qui est aujourd'hui en crise.
Alors, le papier est irremplaçable et en même temps, en assumant cette pénétration, interpénétration du monde, de l'actualité, de la réflexion et du travail des écrivains, des artistes et des philosophes, est-ce qu'on ne prend pas le risque, le Raphaël Glucksmann, de réduire la pensée présente et puis les corpus passés qui sont volontiers sollicités aux commentaires de l'actualité? Comment on fait pour ne pas subordonner la production des intellectuels que vous sollicitez aux impératifs de la réaction médiatique, de l'après-coup, du commentaire, vous voyez, du droit de suite finalement.
Je pense que c'est justement en réhabilitant quelque chose qui a disparu, qui est la capacité à hiérarchiser les informations. C'est-à-dire que on ne commente pas tout, on prend une information et on décide de l'explorer dans... chercher le sens dans faire le tour.
Mais on la commente.
Mais non, on la commente pas justement. On la produit.
Produit. Mais c'est ça qui est hyper important.
Et donc pour ça, ce qu'il faut faire. Alors c'est compliqué dans l'économie de la presse, mais il faut autoriser un écrivain à prendre 2 mois pour écrire un texte qui fait 25 000 signes. Et ça, il y a peu de médias qui le font. Et c'est à mon avis une des sources de la crise. Si les gens ont le choix entre finalement la même chose sur papier payant et la même chose gratuite sur leur iPhone, eh ben ils iront vers le gratuit sur l'iPhone. Mais s'il y a quelque chose d'autre qui se passe quand ils ouvrent un journal, s'il y a une impression de voyage, d'être emporté, d'être embarqué dans une pensée, dans un écrit, dans un langage, eh bien, je suis convaincu qu'il y a un avenir. Et simplement, il faut arriver comme ça à sortir du zapping. Et on peut tout reprocher à un magazine, mais le reproche qui dirait « mais vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça », eh bien ça c'est un reproche complètement idiot, parce que évidemment on ne peut pas parler de tout, ou alors on en parle très mal.
Donc, édito, Raphaël Glucksmann, pendant de trop longues années, le déclinisme et la tentation du repli, la pusillanimité et la xénophobie ont dominé le paysage médiatique et culturel française. Écrivez-vous. Alain Finkielkraut.
Je suis du côté du pessimisme, dites-vous, Nicolas Demeurant. Non, je n'abdicte pas toute espérance, c'est bien pour cela que j'interviens dans la vie publique. Je crois que les vrais déclinistes sont les progressistes, parce qu'ils accompagnent, ils accélèrent même des processus terribles dans lesquels nous sommes emportés. Je suis du côté de la responsabilité. Conservateur, avez-vous dit aussi, je n'ai aucun intérêt à maintenir, à figer l'ordre social. Je plaide pour la sauvegarde d'un certain nombre de choses, la sauvegarde de la terre, mais aussi de la langue, mais aussi de la culture, de la littérature et de notre civilisation.
Qui a fait la force des penseurs réactionnaires, écrivez-vous ? Nous, répondez-vous.
Oui, nous.
Nous qui ?
Ben, nous, les gens qui se prétendent progressistes, voire de gauche, mm-hmm. et qui pendant des années, se sont contentés de répéter des slogans. On crut que quand on disait « vivre ensemble », ça suffisait. Qu'un concert de rap avec des petites mains jaunes, eh bien, ça suffisait à construire une société cosmopolite. Qu'on pouvait se contenter de se gargariser de citations sur la fraternité, la solidarité et laisser crever des gens sur nos trottoirs. Que finalement, on a vidé les notions qui ont fait notre histoire, qui ont fait notre imaginaire, qui ont structuré notre imaginaire politique. Eh bien, on les a vidées de toute substance et on les a remplacées par des slogans publicitaires. C'est Séguéla, c'est Euro-RSCG, c'est les campagnes du Parti Socialiste et c'est des intellectuels en rang d'oignon qui applaudissent joyeusement les mots qui ne veulent plus rien dire de François Mitterrand ou des autres. Et donc, c'est ça qui a fait la puissance. Parce que quand la gauche s'est arrêtée de penser, en un sens, eh bien, tout d'un coup, des penseurs qui remettaient en cause le progressisme, qui remettaient en cause la domination culturelle de la gauche sur la scène culturelle et politique médiatique française, eh bien, sont apparus comme iconoclastes et comme pensants. Tout d'un coup, il y avait quelque chose qui se produisait. Mmh. Et donc, la responsabilité... Les Zemmour aujourd'hui sont pas plus doués que les Maurras hier. Ils sont plutôt même beaucoup moins doués littérairement et intellectuellement.
Vous dites que la gauche s'est arrêtée de penser.
Oui.
Elle est souvent pointée par tout un tas d'adversaires, d'ailleurs d'une très large palette politique. Elle est toujours pointée comme pourtant culturellement dominante, culturellement majoritaire, culturellement cadenassant les médias et la parole médiatique.
Ça, c'est une stratégie de combat de la droite réactionnaire, mais honnêtement, comment peut-on dire que les droits de l'hommiste, puisqu'aujourd'hui c'est devenu une insulte en France, le pays des droits de l'homme, comment peut-on dire que les droits de l'hommiste dominent la pensée française quand il y a la police française qui prend des cutters pour lacérer des tentes de migrants dans nos rues et qui a absolument pas de révolte qui s'exprime ni dans les médias, ni dans les consciences. Que finalement, des citoyens isolés décident de venir en aide, mais que le moment de Sartre et Aron qui allaient voir Giscard pour l'obliger à accueillir les boat people, eh bien, ce moment-là, il est passé, il est fini. Quand finalement,
Glucksmann,
les supporters de foot allemands sont plus
il
humanistes.
Il vous manquait un magazine littéraire ou il vous manquait un magazine de gauche ?
Non, il nous manquait un magazine qui essaye de réinventer le monde. Et pour ça, le regard littéraire est absolument fondamental. Il n'y a pas d'autre regard qui puisse mieux le faire que lui. Et donc, il manquait un journal qui fasse vivre les idées. Et notamment ces idées qui sont battues en brèche, qui
sont
en ruine.
C'est pas notamment ces idées, c'est
d'abord
ces idées.
D'abord ces idées, oui. D'abord ces idées. Et bien sûr, d'abord ces idées-là. Ces idées et ces notions. Je veux dire, aujourd'hui, cosmopolitisme, ça veut plus rien dire. Solidarité ne veut plus rien dire. Il y a marqué fraternité sur nos mairies. Et pourtant, chaque jour, on bat en brèche ce concept. Et donc oui, il faut les revisiter, ces mots-là. Et pour ça, il y a la littérature et la poésie. On ouvre le journal par un poème de Patrick Chamoiseau. Et chaque mois, ça sera pas un édito politique qui va ouvrir le journal, ce sera un poème. Mais il participera d'une même vision, d'une même invitation au voyage, d'une même quête de l'altérité qu'on a aujourd'hui perdu. On a peur de tout. On regarde son nombril. Et finalement, on vote à l'extrême droite. Très bien. Enfin, il y a autre chose à dire sur le monde.
Merci Raphaël Glucksmann. Le nouveau Merci. Magazine littéraire numéro 1, il est en kiosque et il coûte 4,90€. C'est la fin de l'émission. Salut Elie Rébéi.
Salut Sonia
Deville. On va parler gâteau au yaourt dans Grand Bien vous
Exactement,
fasse.
Exactement, faire la cuisine et la pâtisserie avec ses enfants. Quel bonheur. Racontez-nous vos souvenirs culinaires d'enfance et les recettes que vous réalisez avec vos enfants. 01 45 24 7000.